Radio
Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Ravi de vous retrouver, fidèles auditeurs. Eh bien, nous allons parler dans cette deuxième partie de l'émission des innovations contenues dans le nouveau statut de l'Union nationale de la presse congolaise, l'UNPC en sigle. Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui le professeur Séverin Bamani, président du comité scientifique de la rédaction des nouveaux statuts de l'UNPC. Professeur Séverin, bonjour.
Bonjour, cher confrère.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Les sujets vous intéressent, vous voulez participer. Eh bien, le standard est déjà ouvert. Composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde au micro. Jody Daniel Keshama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute de cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien.
Festival 100 voix pour la paix. Ensemble, faisons vibrer nos voix au rythme de la paix en RDC. Le 22 octobre, à partir de 12h, au village Iossi à Goma, en marge de la célébration de la Journée internationale de la paix. Au menu, un grand chœur de 100 choristes qui chantent à l'unisson pour la paix au Congo. Et une collecte spéciale sera organisée en faveur des déplacés de guerre. Le festival Sans Voix pour la paix Gospel Mass Choir for Peace, célébrant tous ensemble la paix par le gospel pour un Congo fort et prospère.
Et oui, ravi de vous retrouver dans cette émission de la vie au quotidien. Merci à vous tous qui nous suivez en ligne sur www.radiookapi.net. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, en sigle, a entrepris une réforme majeure de ses textes afin d'améliorer la régulation des médias dans un contexte où la profession journalistique en RDC est confrontée à des défis liés à l'éthique et à la déontologie. À la suite des recommandations émises lors des états généraux de la communication et des médias en janvier 2022, il est apparu clairement que les textes statutaires de l'UNPC étaient à l'origine de nombreux conflits internes. Il devenait donc impératif de réviser ces textes pour garantir une meilleure régulation des médias et une préservation de la déontologie journalistique. Alors, quelles sont ces innovations? On va les découvrir dans quelques instants avec notre invité. Il s'agit du professeur Séverin Bamani, président du comité scientifique de la rédaction des nouveaux statuts de l'UNPC. Professeur Séverin Bamani, encore une fois, bonjour.
Bonjour, cher confrère Kachin. Jody Daniel, je pense que j'ai bien prononcé votre nom.
Tout à fait, ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Alors, qu'est-ce qui a motivé les innovations ou la réécriture des statuts de l'UNPC?
Bon, ben, il faut d'abord dire que depuis un certain temps, la presse en République démocratique du Congo connaît de moments de soubresaut. Nous sommes pratiquement un peu à la croisée des chemins. Beaucoup de critiques sur la manière dont nous exerçons notre métier. Mmh. Au niveau de la corporation même, on a assisté à un certain bicéphalisme au niveau de l'UNPC. Vous savez que après le congrès des Mwanda, il y a une partie qui est restée dissidente, la partie de Vieta Basengue, les autres, et notre parti avec le président feu Chilunde. Ce qui a fait que le président Kuba qui a pris les rênes est aussitôt contesté par les autres membres, notamment les membres des différentes commissions, la commission de discipline, la commission de la carte. Ça a créé une véritable confusion au sein de la corporation. Mmh. Et la commission a même suspendu le président, il a suspendu même le secrétaire général. Oh là là. Et à leur tour, et ils ont suspendu les membres de commission de discipline, commission
finalement,
de la carte.
Finalement, qui suspend qui?
Mais finalement, on était dans une confusion. Un peu, on s'est retrouvé un peu comme à l'époque de l'indépendance, le président qui suspend le premier ministre,
et le premier
qui
à son tour
le président de la République.
C'est la confusion.
Alors, c'est la confusion, mais au fait, il y a, comme nous l'avons dit un peu par ailleurs, l'UNPC a souffert ou continue à souffrir des textes obsolètes, incompatibles, qui sont dépassés, mais aussi de ces hommes. Il y a un problème d'égo surdimensionné où, au lieu de travailler en toute confrérie, les gens, chacun visait ses petits intérêts par la vente de la carte ou l'accord des autorisations, ainsi de suite, ce qui a fait que, finalement, on a mis de côté tout ce qui est comme travail de la corporation, notamment l'autorégulation. Et ce qui fait, d'ailleurs, à un certain moment, on voyait plus le CESA qui lui faisait la régulation. Il était obligé de se présenter au premier plan, alors que, en principe, le CESAC devait faire la régulation et non l'autorégulation.
Mmh. En passant, quels sont les objectifs de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo?
L'Union nationale de la presse du Congo, au fait, c'est un organe qui a pour mission, d'abord un, de faire en sorte que l'exercice de la profession journalistique soit très bien réglementé en République démocratique du Congo, les conditions d'accès au métier, les conditions d'accès à la carte professionnelle, l'autorégulation par rapport à l'éthique et la déontologie et professionnelle. Et c'est fait que, bon, évidemment, un peu à l'image de la politique du pays, l'UNPC s'est colorée un peu. Il y en a ceux qui sont de gauche, il y en a qui sont
de droite, du centre.
Alors que le journaliste, c'est un chien de garde qui aboie à l'approche du danger. Mmh. Le journaliste n'a que comme boussole la vérité, l'objectivité, la neutralité. Mais c'est fait que de plus en plus, on avait des journalistes engagés, des journalistes pro-X, pro-Y. Mmh.
Et par rapport. Mais jusqu'aujourd'hui,
Ça continue. Ben, au fait, les journalistes peuvent avoir ses opinions personnelles, mais dans l'exercice de son travail, je pense qu'il a le béaba du journalisme, son code d'éthique et de déontologie qui l'astreint à la neutralité, à l'objectivité et à l'équilibre dans la présentation des faits. Donc, on a trouvé que ce qui poussait les présidents des commissions à agir, c'est parce qu'au fait, ils avaient des textes particuliers. Disons qu'au fait, il y a d'abord un statut, ou les statuts de l'INPC, l'Union nationale de la presse du Congo.
Oui.
À part ces statuts qui régentent l'ensemble de la corporation, les commissions ont leur statut, qui malheureusement, qui leur accorde une certaine autonomie de fonctionnement. Ce qui fait que...
Leurs statuts qui sont différents des statuts de l'INPC.
Voilà. Donc au fait, ce sont des statuts dans des statuts. C'est-à-dire, vous avez le statut de l'UNPC, mais vous avez aussi qui régit également les membres des différentes commissions, mais les différentes commissions ont des statuts particuliers qui accordent une certaine autonomie par rapport au fonctionnement en rapport avec notamment les comités directeurs et la présidence de l'UNPC. Ce qui fait que les décisions ou les actes que les membres de la commission de la carte ou la commission professionnelle prenaient n'engageaient pas le comité exécutif. Et d'ailleurs, les différents présidents de ces différentes commissions disaient qu'ils n'avaient pas de compte à rendre au président du comité exécutif. Donc, c'est là créé...
Donc, peut dire que dès le départ, déjà, il y avait des germes des conflits.
Exactement. C'est ce que je disais, créer un tricéphalisme. Mmh. Donc, le président de la commission de la carte, il se croyait que c'est lui qui est le roi.
C'est lui qui décide comme il veut.
Il décide. Voilà. Président de la commission
de discipline. Il n'a de compte à rendre à personne.
Voilà, il a de compte à rendre. Alors... Et on a dit qu'au fait, il y a un problème au niveau des textes. Et ce qui a poussé d'abord le comité exécutif, à ce moment-là, par le premier vice-président Modeste Chabani, qui a eu cette idée, d'abord, un, de saisir le ministre des tutelles, et aussi de mettre en place les recommandations des états généraux de la presse et des médias, qui en appelaient à l'organisation d'un congrès extraordinaire de l'UNPC. Mais comment aller au congrès lorsqu'on a plusieurs textes et chaque texte qui se veut indépendant? Et c'est pourquoi le ministre a saisi aussi les comités directeurs de l'UNPC. Les comités directeurs de l'UNPC, comme nous avons eu le temps de discuter dans les différentes commissions de l'UNPC, modestement, on nous a confié cette responsabilité de réfléchir sur l'architecture réglementaire de l'UNPC. Des trois statuts, on a fondu en un seul. Des trois règlements d'ordre intérieur, on a fondu en un seul. Et on a élaboré le manière de procédure, parce qu'au fait, à un certain moment, les textes étaient muets sur le plan de la gestion quotidienne de la corporation. On a mis en place manière de procédure. On a également renforcé le code d'éthique et de déontologie professionnelle. Donc, ce sont les trois textes fondamentaux sur lesquels nous avons travaillé au niveau du comité scientifique. Le comité scientifique qui a connu l'apport du professeur Ikambo Douassengue de l'UFASIC, mais aussi du professeur Boudimani, qui sont nos aînés scientifiques qui ont apporté aussi leur appui. Et nous avons eu à travailler avec les chefs des travaux au Boulokwes, qui assuraient la modération générale de nos travaux. Mais également, nous avons eu aussi l'apport de deux avocats. Maître Mouchizi, qui est un avocat qui a beaucoup travaillé dans les domaines de la presse, la régulation et l'autorégulation. Nous avons également Maître Kaninda Etienne, qui a beaucoup travaillé aussi dans ce domaine-là, qui a beaucoup géré aussi les dossiers de la presse, qui nous a aidés et ce qui a fait en sorte que, à l'issue de pratiquement deux semaines de travaux, on est arrivé à harmoniser ces textes. Et c'est ces textes-là qui ont été apportés au comité exécutif qui les a présentés au ministre. Je pense que là, on est un peu sur la voie de l'organisation du congrès extraordinaire.
Bien, donc après l'harmonisation des textes, qu'est-ce qui va se passer? C'est le ministre qui va... Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui vient après?
Ce qui va se passer, c'est que d'abord, un, ces textes, on peut considérer comme de textes chantiers, parce qu'au fait, en réalité, pour que ces textes entrent en application, il faut que
ça doit être adopté.
Adopté au niveau du congrès. Nous, on a fait un travail préparatoire. Je peux dire en passant, les grandes innovations, c'est-à-dire au fait, on a supprimé les textes particuliers, et la suppression des textes particuliers donne au comité exécutif de l'UNPC, notamment au président, tout son leadership.
Le plein pouvoir,
parce qu'il était fragilisé. Chacun se présentait comme un roitelet, et ce qui faisait en sorte qu'il y avait cacophonie au sein de la maison. Il garde le gouvernail, mais il travaille en collaboration permanente avec les différentes commissions. Vous savez, les textes avaient aussi des petits problèmes au niveau des structures. Un journaliste de Kananga qui commet une faute de déontologie devait comparaître à Kinshasa. On a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Les sections provinciales doivent également avoir des sections, des disciplines et des sections des tribunaux de pair. On ne peut venir à Kinshasa que lorsqu'on trouve qu'on a épuisé les voies de recours sur le plan sectionnaire provincial, on peut arriver à Kinshasa. Donc, même pour la demande de la carte professionnelle, les traitements des dossiers se font déjà au niveau de votre province. C'est quand même pas normal qu'un journaliste qui est à Tchikapa, qui va demander...
Qui doit envoyer son dossier à Kinshasa.
Et ceux qui vont traiter le dossier à Kinshasa ne le connaissent même pas. Et ça dit non, il faut absolument que la section puisse travailler, et c'est la section qui envoie les documents à Kinshasa. Ces documents sont adressés non pas à la commission de la carte pour la délivrance de celle-ci, mais au comité exécutif qui reçoit, parce qu'en fait c'est l'organe qui gère tout, et le comité exécutif
transmet
à la commission
de la carte.
Oui, et une fois terminé avec avis de délivrance, le comité directeur, notamment le président, signe le communiqué donnant accord à ceux qui sont éligibles pour l'obtention de la carte professionnelle. Et la carte professionnelle, cette fois-ci, est signée par le président de l'UNPC avec le contre-sein du président de la commission de la carte. Alors que le mandat passé, c'était juste le président
de la commission,
parfois qui ne réunissait même pas le membre de sa commission, mais qui signait comme ça, et l'argent venait par M-Pesa, et puis on arrivait à signer. Et ça, voilà. C'est la première chose. La deuxième chose est que lorsque vous avez un problème et que vous devez comparaître devant le tribunal de pair, eh ben, n'amenez pas un avocat. Parce qu'on a trouvé qu'au fait, les avocats venaient soulever les exceptions, ça devenait du juridisme.
Et oui, ça c'est compliqué. Voilà.
Non, on a dit, c'est une affaire entre professionnels. Lorsque un collègue, un confrère est comparé devant les tribunaux de pair, il se fait assister par un autre confrère, plus aguerri et plus expérimenté. On dit, lorsque un médecin qui a mal opéré, il n'y a qu'un autre médecin qui peut savoir que le médecin a mal opéré. Et lorsque un avocat a commis une faute d'éthique et de déontologie, il va dans le conseil de l'ordre accompagné d'un autre confrère. Donc, admettons qu'on m'accuse d'avoir fait un papier, un mauvais papier, et que j'ai péché par manque d'équilibre. On me traite d'avoir déséquilibré mon papier, alors que je présente des protagonistes. Le premier n'a que des paragraphes, et le deuxième, il prend le reste, l'ensemble de l'article. Mais quel est ce code pénal, quel est ce juriste qui saura dire non, c'est le professionnel qui dit, mon cher ami, ici.
C'est déséquilibré.
C'est déséquilibré. Mais tel que vous l'avez écrit, le papier, vous l'avez très bien fait, du début à la fin, il n'y a pas de problème, mais vous avez péché par manque d'équilibre. Et ne peut le connaître que celui qui est dans la profession.
Et est-ce que c'est pas le rédacteur en chef qui emporte la responsabilité? Lorsqu'un journaliste dans une rédaction, par exemple, rédige son papier, et puis il y a des situations qui arrivent.
Bon, au fait,
il y a des équilibres.
C'est les
rédacteurs en chef qui doit répondre.
En principe, le rédacteur en chef, le directeur de publication, qui peut répondre. Mais lorsqu'on est devant le tribunal de pair et comme on dit, l'infraction est individuelle et que c'est vous qui êtes appelé à répondre devant le tribunal de pair. Et si vous estimez que votre rédacteur en chef, qui lui n'a pas vu cette imperfection ou cette faute professionnelle l'a laissé passer, vous pouvez appeler, j'ai dit, mais pourquoi pas ne pas appeler Kachama qui lui est pétri dans le domaine pour venir défendre, pour dire voilà, je suis arrivé à faire ce papier, voilà quelles sont les motivations professionnelles, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça, et ainsi de suite. Donc il y a aussi cette innovation là. Une autre innovation est que pour devenir journaliste, il faut d'abord et avant tout passer par une école de journalisme. Vous devez être licencié en communication d'organisation, communication sociale, multimédia, journalisme politique intérieur et extérieur, journalisme d'investigation culturelle. Mais
il semble qu'actuellement la profession est envahie par des brebis galeuses.
Voilà, c'est ça. Mais évidemment, c'est nous qui avons fait en sorte que, du manque de respect de l'éthique et de la déontologie, on a ouvert les portes à tous les moutons noirs. Mais on a dit, la loi qui venait d'être publiée, qu'on appelle la loi Mouyaya, laisse la liberté aux autres corps, aux autres formations et aux autres filières, la possibilité de devenir journaliste. Les juristes, les médecins, si vous estimez que vous avez les capacités de venir, il n'y a pas de problème, mais à condition, vous commencez par vous commencez par un stage au niveau de la rédaction. Parce que la particularité de notre travail, c'est quoi? C'est que lorsque vous terminez votre université, vous n'êtes pas journaliste. Vous êtes licencié en communication. C'est comme quelqu'un qui termine en droit, il est licencié en droit, il n'est pas avocat, il n'est pas magistrat. Le journaliste, c'est celui qui est à la rédaction, qui commence à bâtonner les premières dépêches, qui commence à écrire et peut-être maladroitement à être corrigé, ainsi de suite. Donc vous commencez d'abord par un stage. Nous, on a commencé comme ça. Moi, quand je commençais à l'analyste, j'ai commencé d'abord à être stagiaire. Et ça, je le fais pendant 2 ans. Et c'est à l'issue de ces 2 ans que je fais...
Stage professionnel ou académique? Là, c'était professionnel.
Non, je suis journaliste et stagiaire.
Ah, d'accord.
Je suis engagé. Mais je suis stagiaire. C'est-à-dire, au fait, ce que je fais est soumis à un comité qui me coach, qui me guide, qui m'oriente sur le plan de l'écriture, sur le plan de l'éthique et de la déontologie. Et 2 ans après, lorsqu'on trouve que je suis suffisamment aguerri et que je peux voler de mes propres ailes, on me donne maintenant, on m'octroie la carte professionnelle. Mais sinon, je n'ai droit qu'à une carte de stagiaire.
Bien, maintenant, tous ces moutons noirs dont vous faites allusion, qui ont envahi la profession, comment arriver à les à les éliminer.
C'est le travail...
Ou à les retirer.
À les retirer de la profession.
De la profession.
C'est le travail qui sera fait par le nouveau comité qui sera issu du Congrès, c'est-à-dire au fait, on passera par des élections pour mettre en place un nouveau comité de l'UNPC à travers ces différentes structures, ces différentes branches qui vont faire un travail de recensement de l'ensemble des journalistes. Un travail sur le plan administratif, c'est-à-dire les dossiers prouvés, votre qualité de journaliste. On ne va pas vous chasser. Si on trouve que vous avez déjà exercé pendant 5-6 ans, bien que ayant entré par effraction, on va vous dire oui, c'est bien, il n'y a pas de vous y être déjà, mais on va vous former. Donc vous rentrez en formation, vous faites une formation de 4 à 5, 6 mois, et une fois terminé, vous reprenez le micro, vous reprenez votre plume, et puis on va commencer maintenant à voir votre évolution. Et également, on va essayer un peu de voir par rapport à, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ils sont plus du côté des réseaux sociaux, ainsi de suite.
Oui.
Et tout cela, je pense que c'est le travail de fourmi qui doit être mené par le nouveau comité de l'UNPC.
Voilà. Évidemment. Est-ce que ces nouveaux statuts prennent en compte aujourd'hui la dimension, les médias en ligne? Est-ce que
exactement.
C'est pris en charge?
C'est pris en charge. Il y a les médias en ligne. Au fait, en réalité, c'est quoi? C'est que le journaliste, il reste journaliste. Médias en ligne, au fait, c'est l'outil qui a changé.
Mmh.
On a fait, vous savez, nous, quand on étudiait le journalisme, on étudiait l'information. Quelques temps après, on a étudié la rumeur. Mais maintenant, on commence même à apprendre à nos étudiants la fausse information, l'infox, l'intox. Et tout ça aussi, ce sont des nouveaux éléments.
Ça me fait penser à la rumeur d'Orléans.
Ben voilà. Exactement, exactement. Donc, au fait, c'est surtout de ce côté-là. C'est surtout de ce côté-là. Et c'est pourquoi il faut que nous travaillons. Parce qu'au fait, en réalité, c'est quoi? La loi sur le numérique. La loi sur le numérique, c'est un peu l'autre versant de la loi du code pénal. Et c'est pourquoi il faut absolument qu'au niveau de la corporation, au niveau de l'autorégulation, qu'il y ait quand même des éléments assez stricts pour faire en sorte que les médias exercés à travers les réseaux sociaux soient soumis à un code d'éthique et de déontologie qui ne s'écarte pas de la ligne pour que finalement on peut prochainement évoquer ce que nous avons toujours demandé, la dépénalisation
du délit de presse.
Oui, ben, si peut-être on a du mal à avoir cette dépénalisation parce qu'on sait que à notre niveau nous ne sommes pas assez organisés. Est-ce qu'il faille comme ça déjà? Ils n'ont pas la dépénalisation, ils écrivent n'importe quoi, ils affirment n'importe quoi, et encore en leur accordant, est-ce qu'ils ne vont pas exagérer? Je pense que c'est à nous de faire le toilettage, un peu ce que le président appelait la salubrité médiatique. Élaguer de notre corps, moi j'ai qualifié ça de catharsis, à élaguer les impuretés qui font en sorte que le corps soit gangréné et pour que finalement qu'on puisse exercer le travail dans le respect du code d'éthique et de déontologie. Pour former un journaliste, c'est à peu près des cours des 4 à 5 ordres. Le journaliste a un cours de droit pénal. Il a un cours de droit constitutionnel, il a un cours de droit public, il a un cours de droit économique, des services publics. Le journaliste a un cours de statistiques, a un cours de démographie, a un cours d'anglais, d'espagnol, a un cours de littérature, a un cours de technique d'expression orale, à part le cours spécifiquement du journaliste, c'est-à-dire radio, télévision. RTV, presse écrite, infocom, sémiologie et tous ces cours-là qui permettent à ce que le journaliste a une vision plus large. Le journaliste, c'est pas celui qui insulte parce qu'il a le mot pour remplacer l'insulte. Le journaliste, c'est pas celui qui dit, ben, par exemple, moi, si je dois dire, par exemple, que le président est dictateur, si telle était ma conviction, je dirais pas, je dirais que le président de la République a concentré tous les pouvoirs entre ses mains. Je suis pas obligé de citer le mot dictateur. Si quelqu'un a volé mon téléphone, je dirais qu'il a pris mon téléphone sans mon autorisation. Parce que dire qu'il a volé, je suis en train de qualifier. Et cette qualification-là, c'est une infraction qui est punie par le code pénal. Et moi, j'ai appris le code pénal. Donc, je ne peux pas, on ne peut pas comme ça me prendre comme un petit enfant par des histoires de diffamation, soit des imputations dommageables. Parce que j'écris mon papier, je sais que ce mot que je suis utilisé a un contenu, a un sens. Et ceux qui vont me lire, ils comprennent. Et parmi ceux qui vont me lire, il y en a ceux qui sont des représentants de l'organe de la loi. Et ils cherchent à punir les infractions. Mmh. Et moi, je fais en sorte que non seulement je dois respecter la décence par rapport à ma manière d'écrire, parce qu'on est journaliste, non pas forcément dans ce que l'on crie, on écrit, mais aussi dans la manière de l'écrire. L'émission Capi Service, ben, ça peut être animé par n'importe qui, mais lorsque c'est Kachama qui anime, on sent qu'il y a du sien, on sent son style, on sent sa personnalité. Mmh. Et donc, ce qui fait en sorte que, il dit, non, moi, je voudrais que cette émission soit animée par tel et non par tel autre. Donc, au fait, cette dimension personnelle qui fait qu'on est journaliste, même si on partage le même métier, mais on a une particularité vis-à-vis des autres qui fera en sorte qu'on puisse aller de l'avant.
Bien, nous parlons de l'harmonisation des textes de l'Union nationale de la presse du Congo. Il y a des innovations qui ont été apportées. Vous avez des questions et propositions ou suggestions. Le sujet vous intéresse. Le standard est déjà ouvert. Il suffit de composer le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net.
Festival Sans Voix pour la Paix. Ensemble, faisant vibrer nos voix au rythme de la paix en RDC. Le 22 octobre, à partir de 12h, au village Iossi à Goma, en marge de la célébration de la Journée internationale de la paix. Au menu, un grand chœur de 100 choristes qui chantent à l'unisson pour la paix au Congo. Et une collecte spéciale sera organisée en faveur des déplacés de guerre. Le festival Sans Voix pour la Paix Gospel Mass Choir for Peace, célébrant tous ensemble la paix par le gospel pour un Congo fort et prospère.
Bien, nous parlons de l'harmonisation des textes de l'Union nationale de la presse du Congo. Il y a les textes statutaires qui étaient là de l'UNPC étaient à l'origine de nombreux conflits internes. Aujourd'hui, on peut dire que les conflits sont complètement, résolus, professeur Séverin.
Non, nous ne pouvons pas avoir cette prétention-là parce qu'au fait, si on a déjà harmonisé les textes, maintenant ils cherchent aussi avoir des hommes capables, avec esprit managérial, de mener notre corporation. Mmh. Et c'est ça le grand travail qui doit être fait par le prochain congrès extraordinaire.
Vous allez déterminer les profils.
Les profils des
dirigeants.
Exactement. Mmh. Parce que j'ajoute également que dans les nouveaux textes, on a créé un organe qu'on appelle les conseils de sages. Le conseil des sages est composé, ces gens seront adoptés, cooptés au congrès. C'est composé des anciens présidents de l'UNPC, mais également des journalistes et des formateurs qui font preuve de beaucoup d'expérience et de beaucoup d'expertise, mais qui n'ont aucune ambition, qui ne vont briguer aucune ambition pendant leur mandat, c'est-à-dire des gens qui sont de manière désintéressée pour essayer un peu de donner des conseils aux jeunes pour que cela arrive à la corporation arrive à bien marcher. Mais c'est également c'est devant cette instance-là que les membres du comité directeur, le président, le premier, le deuxième vice-président, le secrétaire général, les rapporteurs généraux, les trésoriers généraux, les présidents sectionnaires, donc seront jugés. Donc au fait, au lieu d'être jugés par la commission des disciplines, ils seront jugés par le comité des sages qui peut aussi juger le président de l'UNPC. Au fait, c'est l'organe qui est en quelque sorte en dernier ressort, en dernier recours et qui a une force morale qui est en même temps un tribunal de pair au dernier degré qui permettra à ce que ceux qui vont occuper des fonctions au sein du comité exécutif puissent travailler de manière harmonieuse. Je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'enjeux. Tel voudrait être président de l'INPC parce qu'il a tel calcul, tel voudrait être membre de telle commission parce qu'il a tel calcul. Mais je pense qu'il nous appartient à nous, c'est-à-dire nous qui avons une certaine expérience dans ce métier, de trouver des hommes capables parce qu'on a beaucoup de possibilités au niveau de la formation, au niveau même des contacts avec l'État. Moi, je discute avec des députés parce qu'il y a encore la loi sur l'accès à l'information qui traîne encore au niveau du Parlement. Nous attendons. Je dis aux députés, mais c'est toujours bien d'avoir cette loi-là. Et parce qu'on a l'impression que cette loi risque de donner la liberté aux journalistes d'écrire n'importe quoi. Je dis non. La facilité, c'est quoi? C'est que cette fois-ci, ce sont les institutions elles-mêmes qui vont donner l'information. Mais parce que si vous ne la donnez pas, ben dites-vous que le journaliste va chercher par n'importe quelle manière pour l'avoir. Mais lorsque c'est vous qui donnez, et vous savez ce que vous donnez, et avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de tact, et vous savez le faire. Mais si vous ne le faites pas, et qu'il n'y a pas de loi par rapport à ça, les journalistes, lui, son problème, c'est quoi? C'est d'informer. Et il peut l'avoir par vous-même, ou il peut avoir par d'autres sources.
Par d'autres sources,
bien sûr. Voilà, vous n'avez pas à le condamner pour ça. Et c'est pourquoi nous voulons que vraiment ceux qui auront la responsabilité de conduire l'INPC, en tout cas, que cette fois-ci, qu'on ait des gens qui ont une force morale, qui ont une personnalité, qui ont une capacité managériale pour faire en sorte que...
Et qui peuvent résister devant la corruption.
Exactement, exactement. Vous savez, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le travail, mon cher ami. Moi, je dis toujours à mes étudiants, je dis toujours à mes jeunes confrères, faites-vous un nom. Lorsque vous faites un nom, l'argent va venir. Moi, je me rappelle qu'il y a des gens qui ne demandent que celui-là pour son reportage. Ils ne demandent que tel pour son travail. Et parce qu'il sait que celui-là a un nom et son nom porte. Et lorsque vous avez cette notoriété-là, et je pense que le problème d'argent, le journaliste, il vit de sa carte de visite. Le journaliste n'a pas besoin d'aller chercher une corruption.
Le coupage, cette affaire de coupage, est-ce que vous en avez parlé également
On en a parlé. Le coupage est proscrit. C'est vraiment interdit. Mais dire cela, on se dit que c'est une utopie. Ça va être difficile.
Pour ceux qui ne le savent pas, le coupage, c'est...
Voilà, le coupage, c'est le fait pour un journaliste d'accepter en contrepartie de l'information qu'il va donner, qu'il va transmettre, qu'il va diffuser, de recevoir en contrepartie de l'argent, venant soit d'un homme politique, d'une force économique, d'une force
financière. De l'organisateur d'un événement.
Oui. Et ce qui fait que le journaliste n'est plus neutre, le journaliste n'est plus objectif, il devient comme un agent de relations publiques, il devient comme la boîte aux lettres de cet homme politique, et sans le moindre critique, et finalement il embouche la trompette de cette officine politique, économique, et ce qui fait en sorte que ça gâche.
Il n'est plus neutre.
Il n'est plus neutre.
Il n'y a plus de neutralité.
Exactement. Alors, en fait, le problème, c'est de travailler aussi sur le plan économique pour arriver à la viabilisation sur le plan économique des médias. Les médias, les journalistes travaillent sans contrat. Il faut contraindre. Parce qu'en fait, en réalité, c'est quoi? On dit, par exemple, la télévision est créée par les riches pour les pauvres. Lorsque vous créez une chaîne de télévision, vous devez savoir que vous devez avoir les moyens d'entretenir le personnel que vous engagez. Et que ce personnel-là a fait des études, a des capacités et va respecter sa ligne éditoriale. La ligne éditoriale ne dit pas que vous allez être à l'encontre de l'éthique et de la déontologie. La ligne éditoriale ne dit pas que maintenant vous commencez à manifester un penchant vis-à-vis de tel. Non.
Mais si le média appartient à un politique, à un homme politique, bon, il vous impose sa ligne éditoriale, c'est à prendre ou à laisser.
Ben, vous opposez votre clause de conscience. Si vous estimez que vous ne pouvez pas, par rapport à vous-même, et que vous travaillez dans des conditions où vous ne pouvez pas éclater, vous ne pouvez pas vous exprimer clairement, vous pouvez aller ailleurs. Il y a des cas qui sont déjà arrivés comme ça. Vous dites telle information, moi je ne peux pas traiter. Moi je ne peux pas traiter parce que j'estime que cette information n'est pas correcte. Je pense que il y a des journalistes comme ça. On dit non, lui, par rapport à ce genre d'information, non.
Non, il ne faut pas l'approcher.
Il ne faut pas l'approcher. Il n'accepte pas.
Mais est-ce qu'il est prévu, dans vos statuts, vous avez prévu, rencontrer ou exiger ou approcher les patrons des médias, les contraindre à mettre les journalistes qui travaillent pour eux dans des meilleures conditions, avoir un contrat, avoir un salaire, etc., pour bien exercer leur métier?
Tout à fait. Au fait, le journaliste participe à la vie démocratique d'un pays. Le journaliste dans l'exercice de son métier, a le devoir patriotique de vendre le pays. Pas de vendre un régime, pas de vendre une institution, le pays. Et de ce fait-là, il lui revient également au pays de soutenir le journaliste. Donc il y a une action qui sera menée dans plusieurs directions. D'abord, vis-à-vis de l'État, qui doit faire en sorte que l'aide à la presse soit de manière opérationnelle, parce qu'au fait, ce n'est pas une libéralité, c'est un droit. Deuxièmement, aussi, un travail au niveau des organes des médias pour, pourquoi pas, imposer un salaire minimum pour un journaliste qui va... Puisque nous disons qu'il faut être licencié pour être journaliste, je pense qu'il y a un salaire minimum qu'on doit imposer pour dire, désormais, lorsque vous créez votre chaîne et que vous engagez des journalistes, les minimums que vous devez payer, c'est un peu comme ça, un peu comme dans la fonction publique.
Le SMIC.
Voilà, le SMIC. Et comme ça, on verra, peut-être par rapport à l'expertise, par rapport à sa manière de travailler, tout ça, parce que moi, je donne ma petite expérience quand j'étais à Digital Congo, il y avait des journalistes qui avait le double des salaires de leurs confrères. Ah ben parce que celui, quand lui, il vous amène l'audimat parmi le top 5. Et lui, quand tu le fais l'émission, tout le monde est accroché. Mais c'est comme en matière de sport. Ah ben écoutez, un Messi n'est pas payé de la même façon qu'un autre joueur. Un Ronaldo n'est pas payé
de la même manière.
De la même manière. Donc au fait, maintenant, par rapport à ce que vous vous donnez, par rapport à votre expertise, et il faut encourager aussi ces compétences pour aller de l'avant. Mais il y a aussi une action qu'il faut mener du côté des bailleurs. Du côté des bailleurs. Et ils vous disent qu'il y a possibilité de faire en sorte que qu'on mette en place, par exemple, la maison de la presse. Il y a des journaux qui n'ont ou imprimé, où on peut mettre à la disposition des studios d'enregistrement, on peut mettre à la disposition un peu comme le fait...
Un espace de travail, un peu comme le fait...
France Télévisions. Ben vous avez France Télévisions, une journée, par exemple, de 14 juillet... Donc, c'est France Télévisions qui produit l'événement et chaque télévision peut prendre son signal, peut faire son commentaire. Donc, il y a des facilités comme ça et vous voulez aller monter votre documentaire, vous voulez aller monter votre production et vous avez la facilité pour faire en sorte que du côté social, du côté de l'outil du travail, du côté de l'éthique et de la déontologie, que les journalistes soient soulagés pour arriver un peu à faire quelque chose.
Bien, on va accueillir un auditeur, Safari depuis Gabarrière, à Nitouri. Safari, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour également, monsieur le député. Oui, par rapport à l'émission, je voulais dire qu'ici, localement, il y a des personnes qui se font passer pour des journalistes. Les unes ont terminé, les humanitaires, les autres n'ont même pas fini les écoles secondaires, mais... même pour ceux qui ont terminé les humanités, ce ne sont pas des personnes qui ont donc une mention de communication ou de rédaction comme monsieur Lévité est en train de dire. Alors j'aimerais savoir, est-ce que l'INPT contrôle, régularise alors ces textes réellement jusqu'au fin fond de la République démocratique du Congo? Seulement ça, sinon bonne journée.
Bien, merci Safari depuis Gabarrière. Professeur Séverin.
Oui, je sais que moi je suis pas dans les comités exécutifs de l'UNPC, mais je sais quand même qu'il y a beaucoup de faiblesses de ce côté-là. La faiblesse au niveau du comité exécutif, mais la faiblesse également au niveau des comités sectionnaires. Parce qu'il y a quand même des provinces où les choses sont bien organisées. Quand vous allez par exemple à Kolwezi, vous trouvez que quand même la presse est quand même assez bien organisée de ce côté-là. Quand vous arrivez par exemple à Kikwit, à Bandundouville, c'est bien organisé.
Et à Goma aussi.
À Goma, voilà, à Goma, à Bukavu, les choses sont bien organisées. Au fait, vous savez, quand on parle par exemple des radios communautaires, c'est difficile de trouver par exemple un licencié de l'IFASIC, de l'ICC.
Souvent c'est des enseignants.
Souvent ce sont des enseignants.
De l'école primaire.
Et parfois des animateurs qui étaient animateurs dans un bar, ils se retrouvent devant les micros et tout ça, tout ça. Mais il y a moyen, avec ceux qui sont arrivés dans la profession sur l'État, de les former également. On peut les former. Et c'est ce qui manque. Moi, je sais que moi, je connais des amis venus d'Ouvira, des amis qui sont venus, par exemple, un peu plus loin du côté d'Ngandajika, qui sont venus suivre la promotion, la formation ici, des radios communautaires, et qui sont rentrés aguerris avec... Parce qu'en fait, en réalité, c'est quoi? C'est de lui apprendre les béabas du métier, les cinq questions référentielles, qui, quoi, où, quand, comment, et comment arriver, et comment éviter de faire les djalélo, comment éviter de travailler pour un homme politique, ainsi de suite, et aussi savoir s'imposer, parce qu'en fait, le grand problème, c'est qu'il y a une dimension morale dans le travail que nous faisons, et lorsque vous perdez du côté moral, du côté conscience, ça ne va pas, c'est un peu comme la devise de l'université, science sans conscience
n'est que la ruine de l'âme.
Voilà, exactement. Donc il y a une dimension qui fait que le journaliste soit quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler n'importe comment. Je pense qu'il y a moyen comme...
Surtout à l'approche des élections.
Et c'est pourquoi nous avons voulu que frapper à la porte du gouvernement, mais même du président de la République, pour que les états généraux se tiennent le plus vite possible. Le plus vite possible pour que le comité qui sera mis en place puisse mettre un peu des balises pour canaliser tout ce qui est comme ardeur au niveau des campagnes électorales, au niveau des joutes qui vont se faire sentir, et surtout en province. Et je pense que déjà, on sent quelques attaques, on sent quelques agressions.
Ça
commence déjà. Je pense qu'il y a moyen déjà de commencer... au niveau du comité exécutif de commencer à lever petit à petit les cartons jaunes pour dire attention. Oui. Sinon on va brandir les cartons rouges.
Maintenant, entre l'UNPC et le CESAC, où se trouve, je cherche à savoir les lignes de démarcation entre les deux institutions.
Bon, d'abord, le CESAC, c'est une institution de l'État, c'est une institution publique, créée par ordonnance loi. Le CESAC a pour rôle de réguler les médias, mais au sein des médias, il y a ceux qui fonctionnent, c'est-à-dire les journalistes. Lorsque Okapi commet une faute, lorsque Okapi fonctionne sans les documents, ça c'est le rôle du CESAC, de réguler pour dire vous n'avez pas l'avis de conformité, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Mais lorsque c'est Kachama, là, c'est la confrérie, c'est-à-dire le tribunal de pair, c'est-à-dire l'autorégulation pour dire, voilà, dans votre émission au Capi Service, vous avez dit ceci, vous avez dit cela, vous avez enfreint le code d'éthique et de la déontologie. En principe, vous êtes justiciable devant le tribunal de pair, donc devant l'UNPC. Donc, le CESAC, comme institution d'appui à la démocratie, concerne aussi bien les médias, mais aussi tout ce qui passe dans les médias, même les hommes politiques.
Le contenu.
Voilà. Votre parole, en tant qu'acteur politique, en tant qu'acteur de la société civile, doit être contrôlée et que, à ce niveau-là, ceux qui régulent, ceux qui font un peu comme le travail d'aiguillage de ce que nous devons faire, ça c'est le travail réservé au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication.
Alors, quand est-ce que vous souhaitez que les états généraux soient organisés le plus tôt que possible? Est-ce qu'il y a des propositions des dates déjà?
Oui, il y a des propositions des dates et même des lieux. Le comité exécutif a fait une descente à Matadi. Il y a deux propositions. La première, on voudrait voir les états généraux se tenir à Kinshasa. On a sollicité auprès du ministre de l'Information et des Médias de porter l'affaire au niveau du gouvernement pour qu'on puisse nous prêter les installations du Stade Tata Raphaël, parce que là, en tout cas, c'est...
Les installations rénovées, là.
Rénovées. On n'aura pas de problèmes de logement. Tous ceux qui viendront de l'intérieur du pays peuvent être logés, nourris là-bas, sans trop de difficultés, et que les travaux peuvent se passer dans des conditions optimales, avec tout ce qui est comme... matériel informatique et tout ça, les problèmes ne se posent pas. Mais il y en a qui estiment que faire un travail à Kinshasa et pendant ce temps dans le bruit, ça risque ça va entacher un peu la sérénité des travaux.
Il faut s'éloigner de Kinshasa.
Il faut s'éloigner de Kinshasa. On ne peut pas aller en Mbandaka, il y a un problème d'argent. Et les gens ont estimé qu'on pouvait aller à Matadi. Et ce qui a fait que le comité exécutif a fait une descente à Matadi. Ils ont fait la prospection. Et déjà, le comité exécutif a déjà lancé les assemblées de toutes les sections provinciales pour que cette fois-ci ne vienne pas au congrès parce qu'il a été invité par un membre de Kinshasa, non, et que la section s'organise pour dire...
Pour sélectionner ceux
voilà,
qui vont participer.
Voilà, les trois représentants, c'est tel, 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 ainsi de suite, pour que les choses se passent bien. Donc, il y a la possibilité de Matadi, mais aussi la possibilité de Kinshasa. On va examiner les deux ardoises. Est-ce que on a la possibilité de le faire à Matadi? On peut avoir les moyens. Est-ce qu'on a la possibilité de le faire à Kinshasa? Mais sinon, on a proposé au comité directeur, nous, membres du comité scientifique, et on avait été reçus par le ministre avec le comité exécutif, on a proposé que cela se fasse dans les trois semaines.
Alors, pour terminer, professeur Severin Bamani, je rappelle que vous êtes le président du comité scientifique de la rédaction des statuts de l'Union nationale de la presse du Congo. Une question par rapport au mandat des animateurs de l'UNPC. Qu'est-ce qui a été dit à ce sujet?
Bon, au fait, il appartiendra à la plénière de décider, mais sinon, le mandat de l'UNPC est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Donc, de ce côté-là, en fait, on n'a pas touché. On a reconduit.
C'est resté
les dispositions des anciens textes.
Bien, professeur Severin Bamani, président du comité scientifique de la rédaction des nouveaux statuts de l'UNPC, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup. Très content pour moi de retrouver Okapi après autant d'années. Je suis venu ici dans une émission avec Joël Ngembo.
Ok.
Et tout ça, ben, de temps en temps, on veut passer un petit message. Nous voulons absolument que notre profession puisse redorer son image. Il y a des très bons journalistes, il y a des très bons professionnels. C'est juste question un peu de mettre un peu de nôtre pour dire on a quand même assez blagué avec ce métier et nous voulons être fiers de nous-mêmes.
Merci, professeur.